sur le grill d'Écotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Bonne écoute.
Soukhot Tayeb, c'était en 2004. C'est un marché de producteurs. Donc, à un moment, il y avait un garden show, une foire de plantes à Beyrouth, et les organisatrices m'ont demandé de m'occuper du côté cuisine. J'étais food writer, écrivain de cuisine et journaliste, et elles m'ont demandé, bon, très bien, tu es monsieur bouffe à Beyrouth, au Liban, tu vas t'occuper de ça. Donc, j'ai ramené autour de moi une dizaine de producteurs pendant 5 jours. Ça s'appelait les trésors de la terre. Donc, en arabe, c'est un très joli mot. Donc, il y avait le garden show et j'ai appelé ça the garden's fruits. Fruits dans le sens de, pas seulement fruits, mais trésors, quoi. Et pendant 5 jours, ça a eu tellement de succès. Et au bout de 5 jours, je me suis dit, ben, je peux pas m'arrêter, il faut continuer quand même. Donc, comment je vais faire? Ça m'a pris 10 jours pour créer un nom qui s'appelait Soukhot Tayeb et trouver un lieu, la logistique et tout ça. Et avoir le marché. Donc le 10 juin 2004, c'était le début du marché. C'est un marché fermier. C'est un marché de préférence bio, mais pas exclusivement bio, pour ne pas créer des ghettos. Et parce qu'il n'y avait pas assez de producteurs bio à l'époque, il y en a encore moins maintenant avec tous les problèmes qui se sont passés depuis, en tout cas. Et pour aussi, c'est un marché de producteurs exclusivement. On n'a pas le droit d'aller acheter les produits à Rungis et de venir les vendre. À ce moment-là, on est juste revendeur, quoi. Donc, personne ne pouvait vendre ces lentilles que il ou elle qui les avait plantées et récoltées. Et donc, ce monsieur ou cette femme, il vendait comme ses enfants, quoi, ce qu'il avait produit. Et l'argent revenait tout de suite vers eux. Et il y a une chose très, très importante aussi, c'est que le consommateur comprenait que les lentilles, ce n'est pas juste un produit qu'on achète sur une étagère au supermarché, un produit de consommation, mais c'est quelque chose que quelqu'un a planté, a récolté ou a préparé, si c'est un plat ou une préparation. Et c'était aussi un contact direct entre le producteur et le consommateur. Donc, ce n'était pas juste un produit sur une étagère. Et il y avait une chose très, très importante aussi, c'était la dignité, parce que dans toutes les langues du monde, paysan est un gros mot, peasant en anglais, paysan, mais quel paysan, tu vois, mais dans toutes les langues du monde, en arabe, dans toutes les langues du monde, paysan est un gros mot, quoi, tu vois. Et je ne comprends pas pourquoi, quand cette personne est là à faire une des choses les plus importantes, qui est de nous nourrir, quoi. Je ne dis pas, n'en faisons pas un dieu, mais au moins, n'en faisons pas un diable non plus, quoi. Donc, c'était pour toutes ces idées-là, et pour qu'il y ait un dialogue. Donc, entre ces gens de la campagne et ces gens de la ville, qui se considèrent meilleurs, bien sûr, et aussi au Liban, dans un pays de tant de diversité, de tant de religions, où ces gens-là ne savaient même pas quelle était la religion de l'autre, quoi. Et c'était tout ça un peu à la fois. Donc, quand on voit sous cet angle-là, ce n'est plus un marché de légumes. C'est un marché, c'est une agora, c'est un lieu de rencontre, de retrouvailles et de découvertes.
Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui, la cuisine libanaise, dans la crise que connaît le pays?
Un peu de survie.
C'est toujours possible de s'alimenter correctement aujourd'hui au Liban?
Oui, bien sûr. Le Liban est un pays d'inégalité, depuis toujours. Mais ceux qui étaient au plus bas de l'échelle pouvaient vivre. Aujourd'hui, ils ne le peuvent presque plus, et ceux qui sont riches sont devenus beaucoup plus riches qu'avant. Donc, et c'est cette injustice et cette inégalité qui me dérange énormément, moi, bien sûr, et qui me rend en colère, quoi. Donc, oui, bien sûr, ça existe toujours, mais on utilisait des tonnes de pinot de pin dans la nourriture, par exemple. Aujourd'hui, c'est du diamant, on ne l'utilise plus. Et bien sûr, la qualité, on sent la qualité des mets qui se perd un peu. J'exagère un peu peut-être, mais bien sûr qu'il y a une différence.
Quelle est l'histoire de la cuisine libanaise? Est-ce que cette cuisine, elle a beaucoup évolué au fil du temps?
Il n'y a rien qui n'évolue pas. Donc, ce qui n'évolue pas, c'est une pierre ou quelque chose de mort. Mais si c'est quelque chose de vivant, bien sûr que ça évolue. J'ai 54 ans aujourd'hui et je me rappelle que dans le temps, quand on mangeait des pâtisseries orientales, il y avait du sucre. Aujourd'hui, il y a 4 fois moins de sucre peut-être, par exemple, ou de gras, ou déjà dans ça. On ne mangeait jamais de poisson cru, jamais, jamais, jamais. Aujourd'hui, on mange du poisson cru dans un restaurant libanais, quoi, hein, à la japonaise. Par exemple, chez nous, on mange dans toutes les traditions orientales. Et quand on parle de Levant, c'est les mêmes traditions. Que ce soit chrétien, musulman et juif, c'est les mêmes traditions. Donc, on mange pas de... On déteste la viande saignante, par exemple. On mange du cru ou du cuit, mais pas un truc entre les deux. Donc aujourd'hui, ça commence à changer, bien sûr. Donc toutes ces choses-là, je me rappelle quand j'étais enfant, bah, on n'avait jamais entendu de la sauce soja, par exemple. Mais à un moment, ma mère ajoutait, après un moment, quand bon, on a connu ça, ma mère ajoutait ça à un plat très typique qui est le koussa mehché, les courgettes farcies. Donc c'est un plat très typique, très libanais, mais elle trouvait que ça relevait le plat, donc elle ajoutait ça à ce plat-là. Donc il n'y a rien qui ne change pas, bien sûr.
Oui, les tendances évidemment, et puis la multiculturalité, la découverte des autres cuisines qui influencent
oui, absolument.
La cuisine libanaise. Je voudrais parler éco-responsabilité. Est-ce que tu dirais que la cuisine libanaise, c'est une cuisine éco-responsable ?
Je peux dire non.
Tu peux dire non, évidemment, je veux ton vrai avis.
Je pense que toute cuisine est responsable. Et pour moi, il n'y a pas de éco-responsable. C'est responsable. On est responsable ou pas. On ne peut pas être responsable envers l'environnement et ne pas être responsable envers de l'humain, par exemple, ou de l'animal, ou de... toute cuisine traditionnelle est super responsable par précarité, tout simplement. Ouais. Quand tu tues un animal, tu sais, tu ne vas pas aller chez Picard ou je sais pas où on achète de la viande, pas chez Picard, peut-être dans un supermarché, acheter une tonne de viande. Ça t'a coûté tellement cher d'élever cet agneau ou cette vache ou ce poulet que tu dois le manger. Maintenant, on a découvert une chose extraordinaire, tu sais, c'est from nose to tail, comment on dit en français.
De la fourche à la fourchette, non?
Non, c'est manger tout l'animal.
Ah oui, d'accord, oui.
C'est pas une invention, hein. C'est tout simplement c'est que ça coûte tellement cher, ça t'a coûté en temps, en énergie, en argent aussi tellement cher d'élever une poule ou un veau ou un agneau que tu dois le manger en entier. Au Liban, on mange les tripes, on mange mais tu manges tout. Encore un peu, tu mangeais la fourrure. On utilise la fourrure pour autre chose, bien sûr. Mais ça, c'est ça la responsabilité. La responsabilité, c'est manger saisonnier. Est-ce que tu as le choix ? Il n'y a aucune autre technique et tu manges avec les saisons. Et pas seulement ça, tu manges avec les saisons aussi. En hiver, on fait beaucoup de... Pendant les bonnes saisons, on fait beaucoup, beaucoup de réserves alimentaires. Et on appelle ça la monnaie. Donc, les conserves alimentaires ont un nom. C'est la monnaie. Donc, tu dois avoir du blé, des légumineuses, des pois chiches, des haricots rouges. Tu dois faire des pickles, des confitures. Tu dois confire de la viande, comme on confie le canard. Donc, c'est moitié gras, moitié... Parce que bon, tu as la viande grasse à la fin de l'été. Donc, qu'est-ce que tu vas manger en hiver? Donc, tu as tout chez toi à la maison. Pendant 6 mois, tu peux même ne pas sortir. Tu habites à Bécharré avec 6 mètres de neige, tu vois. Tu peux même pas sortir de chez toi à la maison. Les maisons paysannes étaient très, très simples. C'était juste une pièce. Le matin, on y habitait. Le soir, il y avait comme une niche dans le mur où tu enlevais les matelas, tu les mettais par terre. Ça devient la chambre à coucher. À côté, il y a une chambre pour le bétail, mais il y a une chambre très importante dans la maison qui est la chambre de la monnaie. Et même quand j'étais enfant, mon père allait, par exemple, on achetait des pommes de terre pour l'année entière, des oignons pour l'année entière, de l'ail pour l'année entière. Ma mère faisait des confitures. Mon père allait acheter dans les régions d'olives, de bonnes olives. Il y a bien sûr toujours deux écoles. Les meilleures sont au sud ou au nord. Mon père allait dans le Koura au nord. Il achetait de l'huile d'olive. On avait la perception que les récoltes étaient bonnes une année sur deux. Donc, il fallait acheter pendant cette bonne année de l'huile d'olive pour 2 ans. Mon père allait acheter les olives dans un jardin, dans des champs, aller dans là où on presse les olives, on fait l'huile.
Oui, le moulin.
Frantoio, dans le moulin. Et il rentrait à la maison avec de l'huile d'olive pour 2 ans.
Mais c'était une énorme quantité,
on n'allait pas
au
Monoprix pour acheter une bouteille d'huile d'olive. Et j'ai toujours les jarres en terre cuite. J'ai 54 ans, j'en ai pas 150. J'ai toujours des jarres où on venait verser l'huile d'olive. Chaque fois qu'on avait besoin d'huile d'olive, on descendait dans la chambre à provisions, la chambre à monnaie, hôtel monnaie, pour remplir la bouteille d'huile d'olive. Voilà. Donc, bien sûr que c'est responsable. Donc, pour toutes ces raisons-là, on mange de saison, on mange l'animal entier, il y a zéro déchet. Dans la maison de mes parents, quand j'étais enfant, très très jeune, il n'y avait pas de poubelle. On habitait dans un village qui s'appelait Jirita. Mais je te raconte des choses, je me rappelle, c'est comme la préhistoire quand même. Il n'y avait pas de poubelle. Combien de poubelles tu descends par jour, tous les jours? Il n'y avait pas de poubelle. On avait un petit jardin, on avait des poules, toute la bouffe allait aux poules, et on avait un petit trou dans le jardin, on faisait même pas de compost, on savait même pas ce que c'est. Et on avait un petit trou où quand il y avait des cans, des trucs en fer ou je sais pas, des choses comme ça, il n'y avait pas d'emballage. Hein. On brûlait ça genre une fois par mois, ça faisait un petit truc qu'on brûlait, tu vois, et les cendres, elles allaient dans le jardin. Donc oui, bien sûr, c'est responsable. Et c'est, quand je dis c'est saisonnier, par exemple, en hiver, on mange donc la viande avec le gras. On fait des soupes comme la makhlouta qu'on fait maintenant en hiver à Taoulé à Paris. Donc la makhlouta, c'est toutes les légumineuses ensemble, comme je ne sais pas si c'est, on appelle ça minestrone ou autre chose en Italie. Mais c'est toutes, c'est les haricots blancs, les haricots rouges, les gros haricots blancs, des pois chiches, du bourgoule. Donc c'est tout ensemble et tu cuis ça pendant assez longtemps. C'est assez épais, c'est pas une soupe très liquide quoi. Et c'est un repas. Ce n'est plus c'est une bombe quoi. C'est un repas. Donc oui, c'est responsable.
Mais est-ce que ça a changé? Parce que là, tu nous parles de ton enfance, mais aujourd'hui, au Liban, il y a des poubelles. Il y a même une question sur les poubelles qui a été cruciale, notamment à Beyrouth, il me semble. La question des saisons, j'imagine qu'il y a quand même une agriculture intensive aujourd'hui au
Bien
Liban.
Sûr que c'est la même chose partout au monde, malheureusement. Il y a des tonnes de poubelles, il y a des tonnes d'emballages, il y a des tonnes de gâchis. On mange tout le temps, donc il n'y a pas de saison. Et oui, bien sûr.
Quelle est la
part? Pardon, excuse-moi, je t'interromps.
Bien sûr.
Et parfois, les priorités ne sont pas vraiment pareilles. Les grands titres de responsabilité, d'éco-responsabilité et tout ça, c'est un peu le privilège des privilégiés. Donc, quand on est là, on était presque mort par une explosion. Quand en 2019, toutes tes savings à la banque, tout ton argent à la banque de toute ta vie a été pompé par la mafia, par les banquiers et par le gouvernement, et que tu te retrouves avec, tu peux retirer seulement $400 par mois pour payer ton loyer, tes médicaments, tes enfants, tes écoles et tout ça. Donc là, la priorité n'est pas vraiment ça. Et je donne toujours l'exemple où un séjour, je conduisais avec Rabia, mon mari, et tard le soir, il y a quelqu'un qui a jeté un papier d'une fenêtre. On se dit « Ah, mais c'est pas possible !» Et Rabia qui me dit « Tu sais quoi, cette dame, elle travaille depuis 6h du matin. » C'est pas sa priorité, ça ne justifie pas l'acte. Mais parfois, il y a des questions de vie et de mort et les priorités sont ailleurs.
Et ça veut dire que la priorité aujourd'hui au Liban, c'est pas de bien manger, par exemple. C'est comme en France, c'est la...
C'est de manger.
Ouais.
Tu vois, c'est de manger, et je te dirais presque de manger n'importe quoi, mais juste de manger.
De se nourrir.
Oui.
Écoutable.